Bien. Par quoi commencer? D'abord, comme soulignons une banalité pour ceux qui connaissent un peu mes écrits, cet ouvrage ne déroge pas à ma règle habituelle. C'est un ouvrage qui est d'abord le résultat d'une colère. Comme tous mes autres ouvrages, c'est lorsque j'ai le sentiment que les dominants aujourd'hui imposent leur grille de lecture sur un aspect, que je sens le besoin au plus profond de moi d'apporter ma contribution à la réponse des concepts, des idées, des manières de voir les choses qu'imposent les dominants, pour tenter simplement de contrebalancer un des aspects des luttes sociales qui est la lutte idéologique. En ce qui concerne cet ouvrage, je vais distinguer cause et déclencheur. La cause, c'est, j'approfondirai dans quelques secondes, c'est l'ampleur des processus de justification idéologique des nouvelles oppressions en Afrique. Mais le déclencheur qui a suscité la colère, c'est lorsque, dans deux pays d'Afrique, l'Égypte et la Tunisie, des peuples entiers se sont mis en mouvement, qu'on a appelé révolution arabe. On pourrait d'ailleurs se poser la question pourquoi on ne les a pas appelés révolution africaine. Et ça fait partie de cette opération de clivage de l'Afrique en deux sous-continents. Lorsqu'en Égypte et en Tunisie, voilà des peuples entiers qui, à l'admiration du reste du monde, souligne que l'on peut mettre à bas des dictatures par la simple mobilisation populaire durable, quels que soient les sacrifices, qu'on entend dans les médias occidentaux. Que nous dit TF1? Que nous dit Antenne 2? Rappelez-vous, que nous dit le monde? Rappelons-nous. Ils font leur 1789. Le point de référence ne peut être autre chose que l'histoire de la société occidentale et de la société française. À aucun moment on n'était regardé dans l'histoire de ces peuples en quoi cette remise en mouvement des peuples pouvait faire référence à une lutte, par exemple des indépendances, et en quoi, selon moi, ces révolutions étaient tout simplement la reprise du processus qui avait conduit aux luttes pour les indépendances, mais on le lisait avec une grille de lecture qui venait de nouveau confisquer la primauté. En gros, les Africains étaient une nouvelle fois sur le chemin de la civilisation qu'on leur avait appris en venant de Paris. Donc ça, c'est le déclencheur, un coup de colère. Les causes maintenant. Les causes, c'est la domination aujourd'hui chez les dominants, ça se comprend, mais chez les dominés, ça s'implante également. De deux grands discours. Un premier grand discours qui est ce que j'appellerais le roman libéral. La mondialisation, malgré quelques difficultés momentanées, apporterait à l'Afrique des taux de croissance qu'on n'a jamais connus dans le passé. Et voilà, effectivement, il y a la douleur des ajustements structurels, il y a la douleur des privatisations qui seraient nécessaires aujourd'hui, mais à long terme, le bonheur guette. À long terme, croyez les maîtres libéraux, l'avenir va être positif. Et ce discours-là, lisez les journaux des dominants et vous verrez qu'il est hyper prégnant. Ça, c'est le premier discours, qui, bien entendu, ne correspond à rien dans la réalité. La réalité, c'est la paupérisation. La réalité, c'est une oppression, une dépendance des économies qui fait ressembler à l'époque coloniale. Bref, on a un retour de la mainmise des grandes puissances impérialistes sur le continent, et pourtant on a ce roman libéral. Le second discours, seconde cause pour moi, c'est le développement d'une théorisation qui est malheureusement de plus en plus féconde, qui est ce qu'on appelle le courant afro-pessimiste. On en est maintenant à plusieurs dizaines d'ouvrages qui se revendiquent de ce courant. En gros, ce que nous dit ce courant, c'est arrêter. Pour expliquer les difficultés vécues par les peuples africains, les caractérisations économiques de dépendance, arrêtez de nous parler de la colonisation, arrêtez de nous parler de l'impérialisme. S'il y a échec, s'il y a difficulté, s'il y a non-développement, tout cela serait dû à quoi? À des facteurs uniquement internes à l'Afrique. C'est le retour des explications essentialistes, c'est le retour des explications culturalistes, qui prennent des formes très variées. Je vais en prendre un que j'entends souvent pour cette partie de l'Afrique. Après, je parlerai beaucoup de l'Afrique subsaharienne, mais je vais commencer par l'Afrique du Nord. On entend dans beaucoup de débats, de manière très récurrente maintenant. Vous savez, Ibn Khaldoun nous a appris que les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Et pourtant, c'est circulé. Ça circule beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'explication économique. C'est nous qui, dans notre culture, avons un point d'incompétence. C'est nous qui ne sommes incapables de penser la réalité. C'est nous qui sommes dans des divisions permanentes. Autrement dit, il y aurait dans les cultures, dans les essences africaines, un élément de l'échec. L'essentialisme en matière d'explication internationale, le culturalisme, puisque c'est la forme que prend l'essentialisme en Afrique, est une des théories de justification de domination extrêmement efficace et qui est malheureusement intériorisée par les dominés, par beaucoup de dominés. Et donc, pour cela, il me fallait, pour saisir pourquoi ça a pu être aussi important, j'ai posé la question de notre amnésie. Qu'avons-nous oublié? Alors, quand je dis nous, il ne s'agit pas seulement des Africains, il s'agit de tous les progressistes, puisque pour peu que l'on ait un regard un peu mondial sur les réalités, on s'apercevra que l'avenir de l'Europe, en termes de progrès social, dépendra de l'Afrique, l'avenir de l'Afrique dépendra de l'Europe, c'est bien une question d'interaction sociale, et donc ce n'est pas un problème d'Africains, c'est un problème d'engagement social. Eh bien, notre amnésie. Amnésie de quoi? Amnésie d'un formidable mouvement qui, des années 60 aux années 80, a été une véritable ébullition d'idées, avec des dizaines de personnes qui ont tenté de comprendre leur oppression, tenté d'y répondre, mais qui ne se sont pas contentés de le penser, qui étaient en même temps, c'est la caractéristique de tous ceux qu'il y a dans cet ouvrage, et le grand drame, c'est que j'ai été contraint de choisir, et donc il y en manque plein d'autres, c'est des penseurs combattants. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans leur tête, l'idée de comprendre le monde était découplée de l'idée de le transformer. Et tous ces penseurs sont des gens qui, dans des conditions extrêmement difficiles, ont tenté de regarder à partir de ce qu'ils connaissaient, des théories d'émancipation qu'ils avaient appris dans les livres, etc., comment l'appliquer à leur continent qui était la proie de la domination coloniale. Alors, je le fais en posant trois hypothèses, cette redécouverte de cette pensée qui me semble d'une grande actualité, et pas seulement pour l'Afrique, pour le monde entier. Trois hypothèses qui me semblent essentielles de garder en tête. La première, c'est que depuis les débuts du capitalisme, l'histoire est mondiale. Il n'y a pas d'un côté l'histoire de l'Afrique et de l'autre l'histoire de l'Europe. Il y a une histoire qui est dépendante à partir du moment où le capitalisme émerge et où donc la colonisation émerge également, avec l'émergence des théorisations racistes, ce qui veut déjà dire qu'il faut tordre le cou à l'idée que l'homme a toujours été raciste. Non, il est daté historiquement, daté d'un système social qui a eu besoin d'inventer le racisme comme mode de justification de son agression des peuples amérindiens, puis après de la mise en esclavage du continent africain. Et donc le racisme a une datation historique liée à un système économique et social. Et depuis ce moment-là, on ne peut rien comprendre de l'Europe sans regarder l'Afrique. Et on ne peut rien comprendre de l'Afrique sans regarder l'Europe. Le développement ici a comme condition le sous-développement là-bas. La paupérisation là-bas est une des conséquences inévitables du type de croissance qu'il y a ici. Autrement dit, on a une histoire qui est internationale, qui est mondiale depuis cette période-là. Et il faut sans cesse l'avoir en tête parce que ça nous permet d'éliminer toutes les explications essentialistes. À partir du moment où on se rend compte de cette dépendance systémique liée au capitalisme, qui va donner naissance à la colonisation, puis à la néocolonisation, et aujourd'hui aux interventions directes, comme en Mali ou en Centrafrique, après le moment où on a conscience de cela, on ne peut plus être dans des explications en disant « c'est la culture africaine qui n'est pas entrée dans l'histoire, c'est la culture africaine ». On est contraint de regarder les enjeux économiques, sociaux et politiques. Ça, c'est la première hypothèse qui parcourt l'ouvrage, au travers desquelles, eh bien, la lecture de ces différents penseurs combattants était une angle d'entrée. La seconde, elle est également essentielle, parce qu'on voit refleurir des théorisations sur l'approbation du dominé à sa soumission. On commence à voir réapparaître l'idée qu'après tout, on l'a d'ailleurs revu sur les élections en Algérie, on voit des articles en disant, ben oui, peut-être que les Algériens, en acceptant un quatrième mandat, en votant pour Bouteflika, eh bien, décident une soumission volontaire. Et donc les peuples africains, en réalité, avec leurs dictateurs, ben c'est une soumission volontaire. Ce n'est pas des mécanismes internationaux qui mettent des dictateurs avec le soutien des grandes puissances. Non, c'est les peuples africains qui seraient dans la soumission volontaire. Bien sûr, pour faire cela, il faut éliminer tous les enjeux économiques, il faut éliminer toutes les interventions militaires, il faut éliminer tout le contexte pour pouvoir déboucher là-dessus. Et la seconde hypothèse est pour moi essentielle, c'est que jamais, à aucun moment, c'est tout le premier chapitre de l'ouvrage qui est sans doute le chapitre qui a demandé le plus de travail, parce que je voulais montrer toute la panoplie des résistances dès les premiers jours de la chasse à l'esclave, jusqu'aux indépendances et jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment les résistances n'ont cessé. Il n'y a aucune possibilité d'affirmer, compte tenu de tout ce que l'on sait aujourd'hui sur cette période-là, qu'il y a eu approbation, quelconque approbation, même une once d'approbation. Bien sûr, les formes de la résistance des esclaves puis des colonisés ont varié en fonction des contextes. Bien sûr, ils ont varié en fonction des rapports de force. On ne résiste pas de la même façon lorsqu'on peut mener un maquis ou lorsqu'on est tellement assommé par le poids militaire de l'adversaire qu'il faut trouver d'autres formes de résistance. Mais que ça soit par la culture pour ne pas, pour garder son âme, ou que, puisque c'était pensé tel quel, que ça soit par le réinvestissement d'éléments traditionnels qui après peuvent apparaître désuets, mais qui à ce moment-là permettent de répondre au projet du colonisateur qui était de déculturer, il le disait tel quel, déculturer, comme dit Frantz Fanon, les peuples africains, que ça soit en se suicidant, que ça soit en sautant, en tuant ses propres enfants pour qu'ils ne deviennent pas esclaves. Il y a des formes, j'en ai repéré plusieurs dizaines, les résistances n'ont jamais cessé. Et donc c'est un mensonge, c'est l'idéologie aujourd'hui consistant à dire il y a eu des moments de lutte pendant les guerres, la guerre d'Algérie, c'est pas bien, mais allez, d'autres périodes, il y a eu quand même des dizaines d'années de paix, c'est un mensonge. C'est les formes de résistance qui ont pris en compte les rapports de force, mais jamais les résistances n'ont cessé. Troisième hypothèse extrêmement importante pour l'avenir, puisque je suis un invétéré optimiste, bien, dans toute cette période-là, on voit bien qu'à certains moments, le rapport de force empêchait de penser l'espoir. On se disait, mais jamais l'esclavage pourra s'arrêter. C'est pas possible avec un tel rapport de force. Jamais, avec un tel rapport de force militaire, la colonisation pourra s'arrêter. Bref, y compris dans les moments de reflux, ça sera ma troisième hypothèse, ne signifie jamais, c'est valable pour l'Afrique comme pour toutes les luttes du monde, ne signifie jamais la fin de l'histoire. Le dominé guette. Il attend le changement de contexte qui lui permettra d'entrer en scène. Et lorsque le rapport de force du dominant ne lui permet pas de parler, il attend qu'effectivement la moindre vibration dans la domination lui permette de s'engouffrer et de dire tout haut ce qu'il n'osait pas dire auparavant et qu'il disait tout bas. Et effectivement, eh bien, il y a des événements qui sont venus bouger cette domination. Alors je voudrais juste en citer quelques-unes qui me semblent essentielles pour comprendre pourquoi ça s'est mis en mouvement et pourquoi ça peut se remettre en mouvement demain. Et je suis moi très optimiste, ça se remettra en mouvement. D'abord, les deux premières guerres mondiales qui montrent quoi? Avec du recul, on peut dire, mais enfin, pourquoi ils ne se sont pas battus avant? Pourquoi ils n'ont pas, tous ces penseurs-là, pourquoi ce n'est pas en 1910 qu'ils ont pris les armes, etc.? Pourquoi il faut attendre les années 60, etc.? Ben, les deux premières guerres mondiales sont des moments dans lesquels les colonisés s'aperçoivent de quoi? S'aperçoivent que l'homme blanc n'est pas invincible. Un mythe construit, je donne tous les exemples de la construction de ce mythe et des centaines de milliers de francs qu'on a investis pour la France et pour d'autres autres pays de leur monnaie respective, pour construire cette idée que l'homme blanc est invincible. À partir de la suprématie militaire, on a ensuite la construction d'une offensive pour faire intérioriser l'idée d'une infériorité et d'une invincibilité de l'homme blanc. Eh bien, l'histoire, c'est aussi ces petites choses-là. C'est aussi ces petits constats-là. Le tirailleur algérien, le tirailleur malien constate que son copain Jean-Pierre, avec qui il est dans les tranchées, pleure lorsqu'il y a des balles, lui qui pensait qu'il y avait invincibilité de l'homme blanc. Il s'aperçoit qu'il y a des trahisons. Il s'aperçoit que des gens sont capables d'opinions contradictoires alors qu'ils pensaient qu'il y avait un bloc qui s'appelait l'homme blanc. Ça va être la première fissure et dans laquelle vont s'engouffrer les colonisés pour pouvoir reprendre fierté d'eux-mêmes, se réaffirmer. Secondo, et c'est une des dimensions essentielles, la Seconde Guerre mondiale a une caractéristique particulière. C'est le nazisme. Le nazisme, c'est quoi? On peut l'aborder de multiples manières. Je voudrais l'aborder sur la signification que ça peut avoir par rapport à la colonisation. Et comment ça va déclencher, chez un Frantz Fanon par exemple, une des théorisations d'une actualité encore brûlante aujourd'hui, ou un Aimé Césaire. Le nazisme, c'est la colonisation de pays de blancs par d'autres pays de blancs. C'était aussi ça. Tant que c'était des blancs qui colonisaient un pays africain, un certain nombre de scandales étaient connus mais relativisés. Mais voilà que la colonisation, bah oui, l'Allemagne colonise la France. Et là, il y a des morceaux, des œuvres de Césaire et de Fanon qui sont extraordinaires. Quand Césaire nous dit, mais ce que vous vous avez constaté avec le nazisme. Vous nous le faites depuis un siècle. Et vous ne le voyez pas. Et vous le relativisez. Et il n'y a pas de grande révolte chez vous pour dire, mais c'est pas normal que nos États fassent ça. Il a fallu que vous le viviez dans votre chair pour vous rendre compte de ce que cela pouvait donner. Et là, c'est une prise de conscience du double standard. C'est-à-dire, tant que ça arrive à un noir, c'est pas la même chose que ça nous arrive à nous. Et là, effectivement, cette brèche-là fait prendre conscience également. C'est la fameuse thèse d'Aimé Césaire sur la décivilisation. Oui, oui. Un peuple dont l'État colonise un autre peuple se décivilise, nous dit Césaire. À nous habituer, à nous acclimater à ce que notre État puisse intervenir en Centrafrique comme cela, à nous habituer, à nous acclimater, à ne plus nous révolter lorsqu'on intervient au Mali, eh bien oui, nous dit Césaire, vous ne parlez pas de la Centrafrique et du Mali, c'est moi qui actualise, eh bien oui, nous nous décivilisons. C'est rigolo, la colonisation qui prétendait apporter la civilisation, et voilà le colonisé Césaire qui vient nous inverser les choses en disant non, vous êtes dans une décivilisation. Quant à France Fanon, il a eu le mérite d'attirer notre attention, et cela est d'une grande actualité, pas seulement pour l'Afrique, mais également pour nos quartiers populaires, pour comprendre l'écart entre les classes politiques et les habitants des quartiers populaires. Il a eu l'habitude de nous interroger en nous disant, vous savez, on a beaucoup écrit sur les effets de la colonisation sur le peuple colonisé. Mais on s'est peu penché sur les effets de la colonisation sur le peuple du pays colonisateur. En termes d'image véhiculée, de raccourci de la pensée, de stéréotypes ancrés, de manière de voir le noir, l'arabe, le musulman, l'autre, d'ailleurs, le différent, comme devant être inévitablement sur une échelle hiérarchique, avec bien entendu l'idée que nous-mêmes, nous sommes au-dessus. Bref, nous dit Frantz Fanon, la colonisation produit simultanément le sentiment de supériorité chez le peuple du pays colonisateur, et le sentiment d'infériorité chez le peuple colonisé. C'est dans un même mouvement. Ce n'est pas deux mouvements qui convergent, c'est le même mouvement qui produit les deux pour pouvoir subsister. Et bien entendu, ça pose la question, non pas seulement de la décolonisation en Afrique, mais de la décolonisation des esprits et des imaginaires ici, si l'on veut pouvoir parler aux autres peuples à égalité et non pas sans cesse se situer en donneur de leçons. Et puis, on a eu après des contradictions qui sont venues également ébranler ce socle colonial et dans lequel et après de faire des fissures que les colonisés vont élargir, eh bien ça va être les contradictions économiques et les contradictions politiques à partir du moment où un peuple se libère. Et en réalité, les faut avoir en tête le séisme qu'ont été trois événements dans les années 50, qui sont d'un côté Bandung avec les premiers pays d'Asie indépendants qui déclarent indépendamment des choix politiques qu'ils faisaient d'ailleurs. C'était tellement neuf pour eux que ce combat pour l'indépendance, en disant, mais nous, on ne peut pas se désintéresser des pays encore colonisés. Et voilà que les colonisés de toute la Terre se retrouvent, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, enfin, à l'époque d'Asie et d'Afrique, qui va s'élargir à l'Amérique latine, quelques années plus tard avec l'Afrique continentale, se réunissent. Et puis ensuite, les contradictions mondiales font que, bien, il y a la défaite de Dien Bien Phu. En réalité, moi-même, je suis piégé. Il ne faut pas parler de défaite, il faut parler de victoire. Hein, tout dépend de quel côté on parle. Qui va être un trait d'espoir dans toute l'Afrique. Et les peuples le montrent très bien. Tel en Tunisie, où s'invente un tajine de Dien Phu. Hein, ailleurs, au moment de dans la foulée, l'indépendance du Ghana, premier pays africain à devenir indépendant. Et où là, on va avoir quoi? Ben on va avoir les coiffures ghanéennes qui circulent dans toute l'Afrique. C'est des petites choses qui soulignent simplement que les peuples sont à l'affût du moindre recul pour pouvoir s'engouffrer. Et puis, troisième événement, Suez. Voilà que les deux grandes puissances coloniales et Israël attaquent l'Égypte et grâce à l'état du monde et du rapport de force dans le monde de l'époque, sont obligés de repartir. Ça, ces déstabilisations du socle colonial vont être le moment, vont être des moments clés qui vont accélérer l'histoire. Alors, on comprendra que cette accélération de l'histoire, eh bien, j'ai encore un peu de temps. Cette accélération de l'histoire, eh bien, elle ne pouvait être que féconde pour la pensée, bien sûr pour le combat, mais également pour la pensée. Et il faut donc s'interroger sur cette pensée. Est-ce qu'elle est uniquement historiquement située, ou est-ce qu'il y a des éléments de cette pensée que nous méritons de connaître encore, parce que traversant l'histoire, parce que touchant l'essence de telle ou telle domination. Vous aurez compris que c'est ma pensée. Prenons-en quelques-uns, juste un apport de quelques-uns qui me semblent importants. Jomo Kenyatta, qui n'est pas le plus révolutionnaire. Jomo Kenyatta, il nous montre quelque chose de très simple. D'ailleurs, il a après des choix libéraux au niveau économique, etc. Mais quel est l'apport de Jomo Kenyatta? Sa trajectoire nous enseigne que lorsque la domination est complète, lorsqu'il y a l'impression d'une offensive idéologique de domination, un des premiers réflexes, c'est de réinvestir la tradition comme mode de résistance. Ça, si nous ne le prenons pas en compte aujourd'hui, et en particulier les militants progressistes, de gauche, révolutionnaires qui ne prennent pas en compte cela, vont cataloguer comme sauvages des choses qui sont en fait des résistances, des réactions, des tentatives de reprendre l'offensive. Bien sûr, pas dans les formes que l'on voudrait, mais depuis quand le dominé a le choix des formes de sa réaction, de sa révolte? Ça vous rappelle rien? Novembre 2005. Ça débattait partout. Non, mais ces jeunes, pas comme ça, pas en brûlant des voitures. Ils oublient simplement que le dominé, très souvent, se révolte comme il peut, avec les armes qu'il peut. Et là, à l'époque de Jomo Kenyatta, eh bien, la domination était telle que c'est le réinvestissement de la tradition, y compris des traditions qui peuvent paraître, qui sont objectivement réactionnaires, qui permettaient de s'opposer aux colonisateurs. Donc dans la lecture des révoltes aujourd'hui, c'est important d'avoir ça en tête, sinon ce qui est la reprise d'offensive dans un cadre contraint sera compris comme étant uniquement de la réaction et on le condamnera. Aimé Césaire souligne, lui, toujours dans la même lignée, que pour reprendre le chemin de l'histoire, lorsqu'on est dominé, il faut d'abord reprendre confiance en soi. Il faut d'abord être fier de soi. Il faut d'abord revaloriser ce qui a été détruit, sali, humilié par le dominant. Et ça, il le dit à propos de la question nègre, mais bien entendu, c'est valable pour toutes les dominations. Les femmes, dans la domination sexiste, ont besoin d'être fières d'être femmes comme première étape, comme premier mode de réaction face à la domination sexiste. Les immigrés ont besoin, face à l'humiliation de certains discours contre les médias, de reprendre fierté de leur culture, de leur histoire, de leur quartier, etc. Et c'est un moment, ça ne peut pas être le dernier moment, mais c'est un moment, et c'est la première étape, nous dit Aimé Césaire, en le résumant dans une phrase extraordinaire. Le nègre t'emmerde. Voilà un grand apport d'Aimé Césaire. C'est une théorie extraordinaire. Ça nous semble complètement rien du tout de dire le nègre t'emmerde. Sauf à se remettre dans ce qu'était l'intériorisation de l'infériorité du nègre. Et que cette phrase-là, eh bien, quand on la remet dans son contexte, et aujourd'hui, dans un certain nombre de sentiments d'infériorité dans nos quartiers populaires, eh bien, on voit bien que cette dimension-là est une dimension d'affirmation importante. J'avais dit un apport par personne, pour quelques personnes. Pour Aimé Césaire, je vais faire une exception. Je suis obligé d'en dire deux. La théorie du fraternalisme et la dénonciation du fraternalisme. Voilà Aimé Césaire comme beaucoup d'autres. Hein, vous verrez dans le livre, tous quasiment ont été influencés et se revendiquent pour la plupart du marxisme. C'est-à-dire de la théorie qui prétendait changer le monde, etc. Et ils ne le renient pas jusqu'à la fin de leur vie. Par contre, nous dit Aimé Césaire, on a un problème, non pas avec le marxisme, mais avec ceux qui, en Europe, se disent marxistes. Voilà Aimé Césaire qui adhère au Parti communiste français, persuadé que le Parti communiste français va défendre l'indépendance des colonies de manière conséquente, cohérente, etc. Et voilà qu'il constate que le Parti communiste français, en 1956, vote les pouvoirs spéciaux en Algérie. C'est-à-dire autorise l'État à faire une répression de masse en Algérie. Et pour lui, qui a bien lu Marx, qui a bien lu Lénine, comme on lui a demandé de le faire au parti, qui est convaincu d'avoir, par sa lecture de Marx et Lénine, dit « mais ça va pas, ça. Il y a un problème, là. » Et donc, il décide de tenter de comprendre cela. Et il nous dit, cette phrase extraordinaire, c'est la conclusion de sa réflexion, qu'il nous dit que la relation qui le lie au Parti communiste français, ce qui l'amène à démissionner, c'est du fraternalisme. C'est le grand frère. Et d'ailleurs, il fait bien la distinction entre ce grand frère et les ennemis à droite, etc. Il dit, c'est le grand frère. Et le grand frère, eh ben, il a la main sévère. Et là aussi, leçon, hein, vous aurez compris que c'est l'avenir qui m'intéresse. Leçon qu'il en tire, ne pas confondre alliance et subordination. Autrement dit, il nous dit, bien entendu qu'il ne s'agit pas de demander aux Noirs de se replier entre Noirs, aux Arabes de se replier entre Arabes, aux Africains de se replier entre Africains. Ce n'est pas ça le débat. Bien sûr qu'on a besoin d'alliances. Bien sûr qu'on est dans le même monde ou bien dans le même pays. Bien sûr qu'il s'agit de travailler avec tous ceux qui veulent changer le monde. Mais attention, à condition que nos revendications ne soient pas considérées comme secondaires, à condition que sous prétexte d'unité, on ne nous demande pas de mettre sous le boiseau des choses qui font notre oppression. Cet apport de Césaire, il est intemporel. Tant que la domination subsistera, les dominés auront intérêt à travailler avec d'autres et à veiller à ce que leurs revendications ne soient pas mises au second plan. Autre apport, Oumniobé, ce Camerounais assassiné, un des premiers assassinés de ces grands héros, pour moi, qui restent des héros, pas au sens héroïsme, mais au sens de repère de l'engagement et de la pensée. Bien, Oumniobé est vraiment le symbole des processus d'évolution dans la pensée des dominés. Oumniobé, en 1945, est persuadé qu'après s'être engagé contre le nazisme avec un tel apport des peuples africains, il n'est pas possible qu'en 1945, les pays colonisateurs tentent de remettre en place la colonisation. Il est persuadé que le droit international, après l'expérience du nazisme, alors avec du recul, on peut dire c'est naïf, hein, mais à condition que le terme naïveté ne soit pas péjoratif. C'est-à-dire que ça, parce qu'on va voir l'évolution de Oumniobé. Et donc il est persuadé que le nouveau rapport de force mondiale va permettre de faire l'économie des luttes armées, puisqu'il a en tête la lutte que mène le peuple vietnamien et qui a contraint le peuple vietnamien à prendre les armes, etc. Il soutient la lutte armée du peuple vietnamien, mais il dit pour nous en Afrique, le nouveau contexte va nous permettre d'éviter cela. Et bien entendu, sa naïveté se heurte à ce qu'était la colonisation. Et là, Oumniobé va être contraint de mettre en œuvre une lutte armée. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que ça souligne une des leçons et un des mensonges que l'on nous dit sur les luttes de libération nationale. C'est toujours le dominant qui choisit les formes de la lutte. Les dominés, s'ils avaient pu être indépendants sans prendre les armes, auraient préféré être indépendants sans prendre les armes. Et tous les dominés du monde, s'ils pouvaient s'émanciper sans avoir recours à de la violence, recours, etc., le feraient. Et c'est quand le système de domination vient heurter, vient poser un interdit d'évolution par autre chose que l'entrée en action violente que la violence émerge. Et pour moi, ce n'est pas du passé. Novembre 2005 ne peut pas se comprendre si on ne regarde pas tous les espoirs qui ont pu exister auparavant, toutes les pratiques, les pétitions, les marches, les discours gentils pour changer les choses et qui ne changent pas. Et donc, le grand apport de Oumniobé, c'est de montrer que, inévitablement, lorsqu'un système d'oppression tend à se maintenir à l'identique, il y a radicalisation des luttes. Alors, comme nous sommes dans une phase d'un peu de reflux des luttes, c'est bien de retourner dans ces moments-là pour juste nous apercevoir que tôt ou tard, je ne peux pas dire dans un an, dans deux ans, dans six mois, dans trois semaines, mais tôt ou tard, du côté de l'Afrique, le continent se remettra en marche dans des processus révolutionnaires et ici, les dominés reprendront des formes de lutte et de marche. Frantz Fanon. Que dire de Frantz Fanon? Là aussi, je vais me contenter de deux. La distinction qu'il nous fait. Alors je donne ces thèses-là tout simplement parce qu'on a vraiment, au mieux, lorsque vous entendez parler de ces leaders, on les présente comme des gens qui ont eu le courage de se battre. Mais ils n'avaient pas de cerveau. De toute façon, un Africain, ça n'a pas de cerveau. Un Africain, ça, c'est capable de prendre des armes. D'ailleurs, regardez l'implicite de tous les reportages aujourd'hui sur les enfants soldats. Essayez de regarder au-delà de comment on explique l'émergence d'enfants soldats en Afrique, et vous verrez que l'implicite, c'est culturel, etc. Frantz Fanon nous dit sur cette... donc c'est pour ça que je rappelle ces thèses et ces théories. Deux thèses que je voudrais rappeler sur de Frantz Fanon. D'abord, la distinction, la nécessaire distinction dans les formes de violence, entre deux formes de violence. Qui est essentiel, parce que sinon on met tout dans le même sac et on ne comprend plus rien à la réalité. Qui est la violence d'oppression et la violence de libération. La violence du violeur n'est pas comparable à la violence que pourrait avoir la femme violée vis-à-vis de son violeur si elle a les moyens de réagir. La violence du colonisé en réaction à la violence du colonisateur, ça n'est pas le même processus. Et c'est important de bien souligner cette distinction entre violence d'oppression et violence de libération. Sinon, on en arrive à des discours sur où tout le monde est condamnable et où les formes de réaction à l'oppression sont condamnées comme trop violentes. Et enfin, autre apport de Frantz Fanon, vous l'aurez compris, c'est les trois phases de l'émancipation. Je le dis très rapidement, mais je suis sûr que vous allez replonger dans Frantz Fanon. Les trois phases, d'abord, le dominé. Lui, il le dit par rapport à la question de l'esclavage et des conséquences sur les personnes, mais on peut le mettre dans le rapport social capitaliste, si vous voulez aborder la question des classes sociales, vous pouvez le mettre dans le rapport sexiste, si vous voulez aborder la question de l'oppression sexiste. La première réaction dans une domination du dominé, c'est d'essayer de ressembler à son dominant. C'est d'essayer de se faire aimer par son dominant. C'est sa première réaction. C'est ce que Frantz Fanon appelle les nègres blancs. Vous savez, ces nègres qui essayent de faire comme le maître, de lui ressembler, de parler comme lui, voire même de se blanchir la peau. Ça, c'est la première réaction. Mais comme le propre de la relation de domination, sinon ce ne serait pas de la domination, c'est de ne pas autoriser l'égalité, eh bien cette première phase va inévitablement donner naissance à une seconde. Et cette seconde phase, nous dit Frantz Fanon, c'est tordre la barre de l'autre côté. J'ai essayé de ressembler à mon maître, maintenant je ne veux plus rien avoir à faire avec mon maître. Il m'a dit que le nègre était inférieur, je lui dis le nègre est supérieur. Qui est aussi faux que de dire que le blanc est supérieur. Mais c'est une réaction, cette seconde phase va être un moment nécessaire pour se réaffirmer, pour reprendre confiance en soi et réentrer. Et par contre, nous dit Frantz Fanon, attention de ne pas être bloqué à cette seconde phase de l'émancipation, parce que bien entendu, elle est aussi erronée que la première. Elle est nécessaire, mais pas suffisante, pour dire, employer le vocabulaire mathématique. Et la troisième phase, nous dit-il, c'est l'accès à la conscience politique, c'est-à-dire aux enjeux matériel de la domination. C'est pas parce qu'il n'aime pas le noir qu'il nous domine, c'est parce que ça lui rapporte de l'argent, que ça lui rapporte des profits, que de diffuser cette idéologie de l'infériorité du noir. Donc il y a toujours une base matérielle. L'Afrique est riche en richesses, et donc on ne peut rien comprendre de ce qui se passe sans prendre en compte cette dimension-là. Et donc c'est bien la conscience politique des enjeux matériels qui fait que l'on passe à une troisième phase dans laquelle la question n'est plus noir ou blanc. La question, c'est la question de mon émancipation, en prenant en compte ces enjeux-là. Lumumba, et j'arrêterai là pour après laisser, il y en a plein d'autres, hein, mais juste quelques dimensions. Lumumba, pour tous ceux qui sont pessimistes, donc je rappelle la belle phrase de Gramsci, hein, faut être pessimiste dans l'analyse, c'est regarder ce qui ne va pas jusqu'au bout, et optimiste dans la volonté, parce que ça peut se transformer très rapidement. Lumumba, en 56, écrit un livre qui a été publié qu'après sa mort, écrit un livre dans lequel il demande aux colonisateurs d'être gentils avec les colonisés. C'est un livre dans lequel il remercie la Belgique. C'est un livre dans lequel il dit « Nous les évolués, nous voulons devenir des Belges ». C'est pour montrer la force de la solidarité internationale, mais du coup, de ce qu'on a perdu ces 15-20 dernières années, en laissant partir tous les espaces dans lesquels ont rencontré les autres peuples. Mais l'Afrique de 56, c'est quoi? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'Afrique qui regarde vers Bandung. C'est l'Afrique qui a entendu Dien Bien Phu. C'est l'Afrique qui fête l'indépendance du Ghana. C'est l'Afrique qui voit tous ces mouvements-là. Et qu'est-ce que font les premiers pays, en particulier Nkrumah? Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il organise des espaces dans lesquels les militants se rencontrent. Et l'Algéro-Antillais Frantz Fanon rencontre le Ghanéen Nkrumah, qui rencontre le Marocain Ben Barka, et Lumumba est là à Accra, à rencontrer toutes ces personnes qui parlent d'indépendance, de socialisme, de lutte des classes. Il le dit lui-même dans ses discours, il découvre tout. Il est là, et comme assoiffé, à écouter, etc. Son monde est complètement bousculé. Complètement bousculé. Lui qui avait été éduqué pour dire merci aux colonisateurs, voit des Noirs et des Africains non noirs ensemble parler des États-Unis d'Afrique, etc. Et là, on voit en 2 ans un Lumumba devenir un des principaux leaders africains anti-impérialistes. On le voit se leur réapproprier des grilles de lecture, on le voit dévorer des livres qu'il n'a pas eu le temps de lire, on le voit commander des livres à ses amis en Belgique, dans lequel il y a du Marx, il y a du Lénine, on voit bien la volonté de récupérer de cette histoire-là. Et 2 ans plus tard, il faut avoir en tête ce que c'est que le Congo. Le Congo, c'est un continent dans le continent. Et c'est pour cela que le Congo souffre encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un Congo anti-impérialiste, c'était une grande partie de l'Afrique qui échappait aux grandes puissances. C'était pas possible. L'enjeu du Congo est trop important. À l'époque, on n'avait même pas encore découvert le métro actuel, là, le coltan, c'est ça, pour les puces, là. Donc c'était d'autres richesses, c'était l'uranium, etc. Mais les richesses de l'époque étaient déjà suffisantes. Eh bien, on va voir quoi par rapport à Lumumba, par rapport à ses enjeux économiques. Eh bien, on va voir véritablement l'alliance de toutes les puissances impérialistes, plus de l'ONU, avec là une intervention ouverte de l'ONU, pour d'abord isoler et ensuite tuer un des leaders anti-impérialistes. Alors, je souligne juste qu'en 2 ans, cet homme est passé d'un âge de la conscience à un autre âge de la conscience. Tous ceux qui sont pessimistes, peut-être que dans 2 ans, nous referons une conférence ici, et peut-être que nous verrons que ça peut aller très vite en termes de prise de conscience. Voilà, j'aurais pu vous parler de Sankara, j'aurais pu vous parler de Malcolm X et des liens entre le mouvement d'émancipation des Noirs aux États-Unis, mais aussi l'immigration ici en France et les mouvements de prise de conscience, etc. Ce qui nous questionne d'ailleurs sur nos responsabilités lorsqu'on est issu de l'immigration par rapport à nos peuples ou aux peuples de nos parents qui sont là-bas. Ça nous questionne donc sur les responsabilités. Nous aurions pu parler de Cabral. Cabral, un des plus méconnus ici en Europe et une des personnes qui a le plus tenté, il le dit lui-même, d'acclimater le marxisme aux conditions concrètes de l'Afrique, c'est-à-dire d'arrêter de plaquer. C'est pas quand il pleut à Paris, je n'ouvre pas le parapluie à Abidjan, et donc de regarder l'analyse des classes sociales. Puisqu'en réaction aux colonisateurs, seconde phase de Frantz Fanon, rappelez-vous, certains disant il y a des classes en Europe, donc en Afrique, il n'y a pas de classe. Cabral dit non, c'est pas comme ça. C'est pas les mêmes classes qu'en Europe parce que, effectivement, c'est pas le même système social, mais regardons les classes sociales et avec y compris des dominants chez nous. Et donc, il acclimate, il fait une analyse concrète de la situation concrète africaine et surtout, il innove sur d'autres dimensions en montrant en Afrique l'importance de la lutte culturelle, l'importance de la culture. Là aussi, que d'actualité aujourd'hui. Quand même, les dernières élections, je terminerai là-dessus pour faire un clin d'œil à l'actualité. Quand même, c'est quoi les leçons de ces dernières semaines? Pour ne parler que d'ici, la coupure massive entre les classes politiques, et en particulier celles qui se revendiquent de la gauche, et les quartiers populaires. Et deuxièmement, rappelez-vous tous les délires qu'il y a eu avec les ABC de l'égalité, etc. On nous a dit influence de l'extrême droite, etc. D'accord, bien sûr. Mais surtout, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle le gouffre qui s'est construit entre les familles issues de l'immigration et l'école, l'absence de confiance qui s'est tissée entre ces familles et l'école, l'impression que cette école, telle qu'elle s'est construite et telle qu'on la présente dans les médias et avec la loi sur le foulard et avec tout ce qui se dit sur l'immigration depuis des années, eh bien cette école n'est plus comme celle de mon époque, qui était perçue par les familles issues de l'immigration comme étant un espoir de promotion sociale. Et moi, je peux vous garantir que j'attrapais des baffes quand je ne travaillais pas à l'école. Parce que pour les parents, c'était un espace d'investissement essentiel. Il faut s'interroger sur ce gouffre qui s'est constitué. Et ça nous amènera peut-être, du coup, à nous interroger sur ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui. Merci.
Pour tous les Algériens, je te dis qu'il n'y a pas photo à Gringo, on est mal à la place, 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 on est mal à la Je ne serai pas long parce que ceux qui m'ont précédé ici ont dit ce que doit être la révolution. La camarade du comité central J'ai toujours dit, je le répète, que notre maison blanche se retrouve dans le Harlem noir. Ils sont nombreux ceux qui considèrent que Harlem est un dépotoir. Ils sont nombreux ceux qui considèrent que Harlem est fait pour étouffer. Mais nous sommes aussi nombreux, nous, qui pensons que Harlem donnera à l'âme africaine toute sa dimension. En tant qu'Africains, nous sommes nombreux et très nombreux. Nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à lutter à la réhabilitation de l'homme africain. Nous devons mener le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression. Certains Noirs ont peur. Ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Nous devons être fiers d'être Noirs. Souvenez-vous, il y a beaucoup d'hommes politiques qui pensent aux Noirs qu'à la veille des élections. Nous devons être Noirs avec le Noir, le jour comme la nuit. Mais nous comprenons que notre lutte est un appel à la construction. Nous ne demandons pas que le monde soit construit uniquement pour les Noirs et contre les autres hommes. Nous voulons, en tant que Noirs, apprendre aux autres hommes à s'aimer entre eux, malgré leur méchanceté envers nous. Nous saurons résister et ensuite leur enseigner ce que c'est que la solidarité. Nous savons également qu'il nous faut être organisés et déterminés. Nos frères en Afrique du Sud doivent être libérés. L'année dernière, j'ai rencontré Maurice Bishop. Nous avons discuté longuement. Nous nous sommes donné mutuellement des conseils. Quand je suis rentré dans mon pays, j'ai été arrêté par l'impérialisme. J'ai pensé à Maurice Bishop. Quelques temps après, j'ai pu être délivré de prison grâce à la mobilisation de la population. J'ai pensé encore à Maurice Bishop. J'ai préparé une lettre pour lui. Je n'ai pas eu l'occasion de lui la envoyer, là encore à cause de la domination. Alors nous avons compris qu'il faut désormais lutter contre l'impérialisme sans relâche. Nous ne voulons pas que demain on assassine encore des Maurice Bishop. Il faut que nous nous mobilisons dès aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux vous montrer que je suis prêt contre l'impérialisme. Et je vous prie de croire que ce n'est pas un jouet, ce sont des balles réelles. Et lorsque nous tirons ces balles, ce sera contre l'impérialisme et ce sera en faveur de tous les hommes noirs. Ce sera en faveur de tous ceux qui souffrent de la domination. Et ce sera également en faveur des hommes blancs qui sont de véritables frères pour les noirs. Et ce sera également en faveur du Ghana, parce que le Ghana est un pays frère. Vous savez pourquoi nous avons organisé avec le Ghana les manœuvres Bold Union? C'était pour montrer à l'impérialisme de quoi nous sommes capables en Afrique. Beaucoup d'autres États africains préfèrent organiser leurs manœuvres en accord avec les puissances extérieures. Lorsque nous aurons nos prochaines manœuvres, il faudra qu'il y ait de Harlem des combattants pour participer avec nous. Notre révolution est symbolisée dans notre drapeau. C'est le drapeau de notre pays. Notre pays a également changé de nom. Et ce drapeau, vous constatez qu'il ressemble au drapeau de votre parti. C'est parce que nous aussi, nous sommes dans ce parti. C'est parce que nous œuvrons pour la même cause que ce parti. C'est pourquoi, tout naturellement, les couleurs de ces deux drapeaux se ressemblent. Et ces couleurs ont la même signification. Nous avons mis la couleur noire. Nous n'avons pas mis la couleur noire. Parce que nous sommes en Afrique déjà. Excusez-moi. Mais vous pouvez considérer que ces deux drapeaux sont égaux. Vous savez, il est important que chaque jour, chacun de vous se souvienne d'une chose. Pendant que nous sommes là en train de discuter, pendant que nous sommes là en train de parler entre Africains, il y a des espions qui nous écoutent pour rendre des comptes demain matin. Nous leur disons qu'ils n'ont pas besoin d'apporter des micros secrets, puisque même si la télévision venait ici, nous allions répéter exactement la même chose. Alors il faut vous dire que nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. Et la seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. J'ai admiré beaucoup les valets qui ont été exécutés. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à la prochaine semaine nationale de la culture qui se déroulera au Burkina Faso au mois de décembre. Vous devez envoyer ne serait-ce qu'un représentant. Je vous invite également au prochain festival panafricain du cinéma de Ouagadougou au mois de février. Tous les États africains seront représentés. L'Afrique du Sud sera représentée par le mouvement de libération africain. Harlem doit être représenté. Nous ferons tout notre possible pour vous envoyer ici à Harlem des troupes du Burkina Faso pour des exhibitions en faveur de nos frères et de nos sœurs africains qui sont ici. Je vous demande de les encourager, de les soutenir et de leur permettre d'aller dans d'autres villes américaines pour rencontrer d'autres Africains qui sont dans d'autres villes américaines. J'ai constaté que vous avez beaucoup d'estime, de respect pour le camarade Jerry John Rawlings. Alors nous vous enverrons des pagnes africains qui portent sa photo. Et sur ces pannes, nous avons écrit Ghana et Burkina Faso, même combat. Il faudra porter ces vêtements partout, au bureau, à la fac, dans les rues, au marché, n'importe où. Soyez fiers d'être africains. N'ayez jamais honte d'être des Africains. J'avais dit que je ne serais pas lent et avant de terminer, je vous demanderai de vous mettre debout, s'il vous plaît. Parce que demain, lorsque je ferai mon discours aux Nations Unies, je parlerai des ghettos. Je parlerai de Nelson Mandela qui doit être libéré. Je parlerai de l'injustice. Je parlerai du racisme. Je parlerai de l'hypocrisie des dirigeants à travers le monde. Je leur dirai que vous et nous, nous tous, nous menons nos combats et qu'ils ont intérêt à faire attention parce que vous représentez le peuple partout où vous êtes debout. L'impérialisme tremble. Et c'est pourquoi je vous invite à répéter, lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Merci camarades.
C'était juste une précision, c'était un discours donc de Thomas Sankara à Harlem, aux États-Unis. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, des interrogations.
Alors, bonjour tout le monde. D'abord, un réel plaisir de vous découvrir, parce que je ne vous connaissais pas. Mais votre exposé nous a vraiment un peu mis dans l'ambiance, en fait, de vos écrits et aussi de cette lutte idéologique dont vous parlez. J'ai une question et peut-être un commentaire. Ma question concerne un peu les titres de votre ouvrage, parce que j'ai vu que vous avez marqué « Figure de la révolution africaine ». Et là, je m'arrête au mot « révolution ». Et je me dis, en fait, bon, peut-être aussi c'est un avatar de mon, on va dire, de mon esprit, ou bien de mon intellect de coloniser ou alors de dominer. Mais quand je vois « révolution », je pense à celle française, 1789, ou c'est l'anglaise, c'est 141. Et donc, là, je vois révolution, j'entends vraiment les bases d'une société nouvelle, d'une façon de voir le monde et de jeter les bases vraiment d'un développement économique. Est-ce que c'est votre sentiment que c'est le cas avec les figures dont vous parlez en Afrique? Et peut-être le commentaire que je vais faire, c'est que, et là, je vais m'intéresser au sociologue que vous êtes, parce que, étant ici en Afrique, en France, avec beaucoup de mes compatriotes qui sont sénégalais et d'autres qui sont d'autres origines, je vois qu'il y a un réel désir de retourner en Afrique et de faire en quelque sorte que ce continent émerge et sa place au concert des nations. Et je pense que l'identification à ces figures n'est pas automatique, mais c'est plutôt par rapport à une prise de conscience de ce qui se passe, des enjeux économiques du monde, qui fait qu'ils ont besoin de s'affirmer en tant que, d'affirmer leur identité et d'être à la base vraiment du développement de leur peuple. Et là, je me dis que ça demande en fait une nouvelle compréhension des données, que les sociologues ou bien d'autres champs disciplinaires s'accaparent de ce mouvement-là qui commence à prendre vraiment racine pour comprendre ce qui se passe. Parce que moi, personnellement, j'ai parlé de chez Soujla, du développement de l'Afrique avec des camarades, et on ne s'identifie pas carrément aux figures dont vous parlez, mais quand même le désir est là, et vraiment c'est une volonté qui est présente. Et je pense que ça mérite une attention nouvelle, je pense. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, merci beaucoup.
Oui, d'abord sur le concept de révolution, alors ça fait partie des mots valises, hein. Tout le monde l'utilise, etc. Pour moi, une révolution, c'est lorsqu'il y a changement des rapports sociaux. C'est pas simplement lorsqu'il y a une modification, une croissance, et lorsqu'il y a des changements des rapports sociaux. Donc, à partir du moment où vous remettez en cause l'esclavage ou la colonisation, il n'y a pas de remise en cause de l'esclavage et de la colonisation qui ne soit pas la remise en cause des rapports sociaux. Et donc là, effectivement, c'est des révolutions. Après, qu'elles soient inabouties, qu'elles soient inachevées, que le rapport de force n'ait pas permis de les mener à terme, ça, c'est autre chose. Mais sortir de la dépendance suppose une révolution, c'est-à-dire un changement des rapports sociaux et casser les rapports sociaux de domination pour mettre en place d'autres rapports sociaux. Donc ça sera de toute façon une révolution. Après, si le mot fait peur, ben abandonnons-le. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui signifie un véritable changement. Alors, Est-ce que par rapport à la... Donc ça, c'est par rapport au concept, et en particulier, dans les rapports sociaux, il y a bien entendu la base économique. Je le disais, les dominations n'ont de sens, existent par rapport à une base matérielle. Et donc ça suppose de casser cette base matérielle pour la remplacer par une autre. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, l'Afrique reste dépendante économiquement, et donc il y a besoin de cette dynamique révolutionnaire. Est-ce que ces penseurs nous sont d'une quelconque utilité aujourd'hui, ou est-ce qu'on pourrait s'en passer? Parce que c'est ça la question que vous posez en définitive, en disant, mais nous on est plein d'Africains, on veut rentrer en Afrique, et on est intéressé par nos peuples, et, mais ces penseurs-là, on ne s'y reconnaît pas, ou on, en tout cas ce n'est pas des références pour nous, etc. C'est tout le problème de la mémoire. À quoi elle sert? Et en particulier la mémoire en lien avec la lutte, ou avec la compréhension d'une situation. En fait, vous avez deux questions qui sont posées. Donc, je vais pas être gentil, hein, donc je vais vous poser des questions embêtantes. Hein. Vous avez deux questions qui nous sont posées, qui sont des vieilles questions. La première, c'est qu'est-ce que je veux effectivement faire en Afrique? Est-ce que, en tant que personne ayant vécu dans la diaspora, je viens donner des leçons à mon peuple? C'est-à-dire, je viens t'en persuader. Il y en a plein, donc vous êtes, à part vous qui êtes un mec super, mais tous les autres que j'entends, qui est de dire, nos peuples sont quand même idiots. Hein. Nous, on a eu la chance de bénéficier du savoir du blanc, on va rentrer et on va leur expliquer. Et on va venir leur expliquer comment se développer. Si c'est ça, vous ne sortez pas du rapport de dépendance. Vous êtes ce que les noirs américains, les militants noirs américains appellent des tokens. Ce que Frantz Fanon appelle le nègre blanc. Token, c'est jeton. C'est-à-dire que j'ai intériorisé qu'il valait mieux que ce soit un homme noir qui gère les intérêts de l'impérialisme là-bas. Je suis, disait Frantz Fanon, un chargé d'affaires. Chargé d'affaires des anciennes puissances coloniales. C'est plus rentable quand même. C'est mieux que ce soit un noir plutôt qu'un administrateur blanc. On n'a même plus besoin à ce moment-là de financer une armée de répression puisqu'elle est autofinancée. Bon, je fais exprès de vous taquiner. Ça, c'est la première possibilité. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est de dire il y a des luttes dans mon pays. Ou s'il n'y en a pas, il y en aura. Que jamais un peuple est amorphe par rapport aux situations de paupérisation, par rapport aux situations de dégradation. Que peut-être les formes de réaction, on ne les voit pas encore. Et que par conséquent, la question qui m'est posée, c'est suis-je un allié des inévitables révoltes qui naîtront en Afrique? Et si on se pose cette question, du coup, la seconde question, bah, c'est celle de a-t-on besoin de connaître les expériences antérieures de ceux qui ont tenté de penser l'émancipation dans mon pays ou sur mon continent? Est-ce qu'on va être confronté à des choses complètement nouvelles? Bien sûr qu'il y aura des choses nouvelles, mais est-ce que tout sera complètement nouveau? Et en particulier, est-ce que sur les questions clés, on va être confronté aux mêmes choses ou à des choses complètement différentes? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, une dynamique révolutionnaire dans un pays africain, une révolte, ne va pas poser la question de la culture? Vous savez, une des limites de plein d'expériences, ça a été de considérer ce que je disais tout à l'heure sur la vision nostalgique du passé africain. Il suffirait de retrouver le paradis perdu. Donc du coup, on a parlé de socialisme musulman, de socialisme africain, chacun du socialisme authentique, etc. Et en disant, c'est pas une construction nouvelle, c'est dans notre passé, il faut qu'on réhabite comme habitaient nos ancêtres. Mais ça, le colonisateur ou l'impérialisme est très content de cela. Hein. C'est très content d'avoir un mode de fonctionnement qui ne soit pas ancré sur les réalités économiques et qui donc maintienne la dépendance. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que sans avoir un regard, et pour ceux qui liront le livre, vous verrez qu'il y a plein d'éléments critiques. Donc je ne suis pas dans un rapport à ces penseurs qui a un rapport de dire tout ce qu'ils ont dit est vrai, en partie d'abord parce que c'est situé historiquement, mais sur toute une série de thèses, sur la question de la distinction, de ce que c'est que le néocolonialisme, sur la question de la nécessité du panafricanisme, sur la question avec Sankara de la place des femmes dans le mouvement d'émancipation, sur la question de la nécessité d'un développement par en bas, et pas par en haut, parachuté par une élite, tel que le conclut Nkrumah à la fin de sa vie, en reconnaissant ses propres erreurs. Sur toute une série de questions comme cela, Je ne vois pas ce qu'il y aurait de nouveau aujourd'hui. Un mouvement de construction d'une économie indépendante en Afrique devra se poser la question. Au fait, c'est les élites qui pensent pour le peuple ou ça vient d'en bas et c'est auto-organisé. Il devra se poser la question de la place des femmes dans des sociétés patriarcales et comment le processus de développement prend en compte cette oppression particulière pour pouvoir justement mettre les femmes en mouvement pour détruire cette oppression. Elle devra se poser la question de comment je fais par rapport à l'instrumentalisation du maintien d'identité ethnique, d'identité tribale, etc., qui ne sont pas liées à une culture, mais qui sont liées à un stade de développement économique, à un état des rapports sociaux, etc. Ces questions-là, aujourd'hui au Sénégal, se posent quasiment de la même manière, dans une dynamique révolutionnaire, se poseraient de la même manière qu'elles se sont posées pour Nkrumah, qui avait affaire, lui aussi, à comment mettre en place une identité nationale qui ne soit pas négatrice des identités multiples, tribales, ethniques, etc. Et donc ces questions-là, elles sont transversales. Et donc quand on dit on ne se reconnaît pas chez eux, j'ai envie de dire, il faut les lire un peu plus.
Merci de votre réponse. Je comprends bien ce que vous dites et je mesure vraiment l'enjeu de connaître ces figures-là, de connaître leurs pensées et surtout de savoir situer, comme vous l'avez dit, en fait, les mouvements qu'ils trouvent vers l'émancipation, qu'ils disent en fait être vraiment porteurs de l'émancipation. Mais pour prendre l'exemple du Sénégal, dont je suis originaire, où, par exemple, le mouvement, un mouvement qui a été récemment, on va dire, à l'origine de quelque chose de vraiment grand au niveau de l'histoire politique du Sénégal, ça a été le mouvement du 23 juin. Ça dit qu'à un moment donné, les gens ont compris qu'il était plus possible de se faire manipuler par une élite pour des intérêts économiques ou politiques. Et à un moment donné, ils sont sortis immédiatement dans la rue sans pour autant qu'il y ait une certaine forme d'organisation. Et donc, moi, je me dis que les penseurs, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à un moment donné, il faut connaître les mécanismes de la domination pour pouvoir lutter. Mais ces gens-là ont pu comprendre que la nécessité, en fait, n'est pas réellement de s'inspirer de ce qui se dit dans les livres, mais c'est une nécessité vitale de préserver son identité. Tout ce qu'on a comme, on va dire, moyen d'émancipation, c'est de sortir et de crier non, que ça suffise. Et là, je me dis qu'en parallèle, c'est le mouvement qui se passe avec, on va dire, beaucoup de jeunes comme moi qui avons vécu ici, qui ont compris les enjeux nouveaux de la colonisation. Mais je comprends parfaitement ce que vous dites, mais je me dis qu'à un moment donné, il faudrait dépasser ce cap-là de toujours regarder dans le rétroviseur, savoir ce qui s'est fait avec les figures que vous citez, mais de comprendre quels sont les ressorts actuellement de la révolte. C'est ça que j'ai dit, en fait. Merci beaucoup.
Oui, je souhaite participer à ce débat sur quelques points qui me préoccupent en tant que citoyen des deux rives de la Méditerranée. J'étais très touché par votre introduction à la remarque pertinente qui consiste à dire vous vous interrogez sur le pourquoi que ces révolutions arabes n'ont pas porté le nom de révolution africaine. Et pour illustrer la pertinence de votre posture, j'ai en tête mon activité de militant associatif à Toulouse, et mes amis de la Maison de l'Afrique à Toulouse sont là. Lorsque j'ai commencé avec d'autres, une minorité de maghrébins, de s'intéresser à l'unité africaine qui se construait à Toulouse, intitulée la MAT, la Maison de l'Afrique à Toulouse. Le président est là, il vous dira mieux que moi l'importance. Et on était surpris que les Maghrébins ne répondent pas massivement à cette unité de l'Afrique. Donc ça, c'est pour moi, c'est important, votre piste. Quels sont les obstacles majeurs sur le plan à la fois psychosocial, sociologique et historique qui ont fait qu'il y a une fissure dans le continent africain sur le plan des solidarités? Deuxième élément important, votre ouvrage a osé intégrer une figure du Maghreb sur la question des révolutions africaines. Je veux parler de Mehdi Ibn Brka, en raison certainement de son engagement dans la tricontinentale. Donc cette prise de conscience que l'enjeu des indépendances est intimement liée, et le fait que le Maroc ait son indépendance, entre parenthèses politique et non pas économique, pour créer une fissure au sein du continent africain que les Marocains, à un moment donné, à l'intérieur du mouvement nationaliste, ont refusé de baisser les armes, d'arrêter, parce que le Maghreb, dans sa globalité, n'a pas été libéré. Et du surcroît, Mehdi Bourbaka, dans son option révolutionnaire, avance plus en disant non, le continent africain, l'Afrique noire à laquelle nous appartenons, n'est pas encore libéré. Donc ça, c'est une deuxième piste. Et je ne veux pas être lent, la troisième piste, j'étais très content de voir l'introduction argumentée de la figure d'un Afro-Américain qui est Malcolm X. Et j'ai voulu savoir, parce que lui, il le justifie, que le destin des Afro-Américains est le même en raison de leur origine historique de l'Afrique noire. Mais ce qui est intéressant pour moi, et chose que vous n'avez pas développée dans ce passage, c'est l'antériorité de ces deux débats. Du côté maghrébin, la figure incontournable de Abdelkrim el-Khattabi, parce que ce dernier a posé la question de la rupture avec la monarchie en créant les républiques du Rif. Donc ça, c'est un enjeu important. Et moi, je travaillais sur les archives de la Dépêche de Midi entre 1921 et 1926. J'étais surpris de voir comment Toulouse, la Dépêche de Midi, était avant-garde pour dénoncer Abdelkrim. Et ça, c'est un travail formidable. Je fais appel à l'association Tactique Collective, puisqu'on est sur Toulouse, vraiment de chercher le financement pour mobiliser des chercheurs, d'analyser page par page la Dépêche de Midi entre 21 et 25. La Dépêche de Midi était fière de mettre le doigt sur la figure de Abdelkrim, un terroriste qui veut faire l'unité entre Médine et Melilla. Comme ça, les titres de la Dépêche en 21 et sont des radicaux de gauche. Pourquoi ? Parce que l'un des radicaux de gauche était responsable dans les colonies et il passe les informations à son parti radical de gauche qui la publie dans la Dépêche du Midi, #, journal de la démocratie. Donc ça, c'est une piste. La deuxième piste importante, c'est en vous intéressant à Max, à Maxom X, vous avez omis l'importance de Libéria, la naissance du Libéria. Et je pense que le Libéria a été fondé pour des esclaves afro-américains affranchis en 1821. Et je pense que l'élaboration déjà de cette rencontre entre des Afro-Américains et le retour et la naissance du Libéria illustre parfaitement vos propos sur les enjeux de l'histoire et les enjeux actuels. Merci beaucoup.
Il y a beaucoup de choses. Merci pour tous ces compléments. Donc je vais pas répondre systématiquement, mais quand même quelques petits éléments. D'abord, sur la question de l'unité africaine. Force est de constater qu'au plus loin que remontent nos archives, au plus loin qu'elle remonte depuis l'agression esclavagiste, au plus loin que l'on remonte, à chaque fois que l'émancipation a été en offensive, l'unité africaine a été renforcée. À chaque fois que l'unité africaine a reculé, eh bien, on a vu des phénomènes de retour de l'oppression, de l'ampleur de la domination. Ça, c'est pas simplement un constat. Nkrumah le théorise. Et il le théorise pas tout seul, il le théorise dans des réunions qui réunissent tout le continent africain, Afrique du Nord comme Afrique subsaharienne, sur les conditions d'une véritable indépendance économique. Dans l'état du monde d'aujourd'hui, avec des puissances économiques qui ne peuvent subsister que par le pillage, quelles sont les conditions pour se libérer? C'est ce que Samir Amin appellera 50 ans plus tard. Ce n'était pas les mots de l'époque, la déconnexion. Il faut se déconnecter du système impérialiste pour pouvoir avoir un développement indépendant. Or, se déconnecter suppose une certaine surface géographique. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, Sankara le dit très clairement, il dit, je sais que je suis... Si vous ne suivez pas notre chemin, je sais que je suis condamné. Rappelez-vous son discours au moment de la dette, où il dit, nous allons, nous, de toute façon, ne pas rembourser la dette. J'appelle tous les pays africains à ne pas rembourser la dette, parce que si je le fais tout seul, je suis mort. Quelques mois après, il est tué. Et donc la question de l'unité africaine, ce n'est pas seulement une unité culturelle. Pour moi, c'est la grande erreur que de considérer que l'unité de l'Afrique, elle serait de dimension culturelle. Ça, c'est la théorisation de l'impuissance. On va considérer qu'on aurait quelque chose, une culture qui nous réunirait. Mais non, l'Afrique est aussi pluriculturelle que l'Europe. Il y a plein de cultures en Afrique. Ça ne sert à rien de rechercher une homogénéité. Ce n'est pas ça. C'est le destin commun, si on veut, une réelle indépendance. C'est-à-dire que c'est une des conditions de l'émancipation. Et c'est par hasard que les stratégies des grandes puissances soient des stratégies qui consistent à couper l'Afrique en deux, au minimum, si ce n'est pas en trois ou quatre, et en particulier de mettre la césure entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. C'est quoi l'union pour la Méditerranée? C'est quoi ce grand projet? C'est couper le continent en deux. C'est empêcher l'idée que le pétrole et le gaz algérien contribuent avec le minerai congolais ou le minerai sénégalais à un développement du continent. Et donc on a bien là l'idée qu'il faut éparpiller au maximum. Et je crois que le recul d'aujourd'hui se traduit en particulier par ce que j'appellerais, le terme est occidental parce que c'est apparu par une balkanisation de l'Afrique. Hein. Ils ont coupé le Soudan en deux. Ils sont en train de nous dire non, Centrafrique est hors de question de couper. Ouais. Quand un intervenant militaire commence à dire il est hors de question de couper, ça veut dire qu'ils en ont au moins discuté et qu'ils ont au moins regardé si ce ne serait pas intéressant de couper, etc. Et donc on voit bien que cet éparpillement des États-nations africains, eh bien, sont dans la même logique que de couper le continent en morceaux. Donc là-dessus, c'est d'abord pour des raisons économiques, politiques, des conditions de l'émancipation que l'unité du continent est nécessaire. D'ailleurs, souvenons-nous de comment ça se pensait à l'époque où tout le continent était dans une véritable culture d'espoir émancipateur. Qui était dirigeant de la tricontinentale? Qui on a nommé comme secrétaire? Trois secrétaires. Un pour l'Amérique latine.
C'était Che Guevara.
Un pour l'Afrique subsaharienne. C'était Cabral. Et un pour l'Afrique du Nord. Alors quand je dis un pour, c'est pas ils avaient les mêmes responsabilités hein, de mener la tricontinentale ensemble, qui était Ben Barka. Derrière cela, il y avait la double affirmation. L'unité du continent et la communauté de destin avec l'Amérique latine qui vit également une oppression. On voit bien que c'est bien une prise de conscience. Aujourd'hui, on a cet éparpillement, mais ça va ensemble. Hein. Ça va avec l'amnésie sur cette période-là, l'amnésie sur toutes ces périodes-là. Entre guillemets, les trois secrétaires de la tricontinentale, ils ont un point commun, vous l'aurez repéré, ils ont été assassinés tous les trois. Quand les grandes puissances prennent le temps d'assassiner quelqu'un, c'est jamais pour rien. Et là, c'est les trois qui ont été assassinés. Sur la question de... Alors, ayant également en tête, juste que la logique de la décolonisation, ça a été la suivante, hein, faut pas l'oublier. Et ça, pour certaines phases, c'était écrit tel quel. On a d'abord eu, face à la lutte des peuples d'Asie, lâcher l'Asie pour garder l'Afrique. Après, on a eu lâcher l'Afrique subsaharienne lâcher le Maroc et la Tunisie pour garder le reste de l'Afrique. Et après, c'est lâcher l'Afrique subsaharienne pour garder l'Algérie. Là, c'était les richesses pétro-gazières. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois que l'unité du continent, la solidarité entre les différents pays du continent a baissé, à chaque fois, on a reculé. Sur Malcolm X, vous avez également raison de souligner l'importance de Malcolm X. Vous savez, de quoi on discutait dans les réunions internationales à propos des États-Unis dans les années 60, Malcolm en parle dans ses écrits, hein, où il décrit en particulier une rencontre avec une discussion qu'il a avec Fanon et Lumumba, dans lequel il parle de la situation des Noirs aux États-Unis en employant le concept de colonisation intérieure. Ce qui est... c'est-à-dire que les évolutions des théorisations sur l'Afrique aidaient aussi à comprendre l'oppression. Mais surtout, faut voir que les destins des États-Unis noirs ont été fortement, fortement aidés par l'émancipation des peuples africains. Si au 19e et au début 20e, les idées naissant aux États-Unis dans le mouvement noir ont aidé les premières prises de conscience, en particulier avec un Garvey qui parlait d'être fier d'être noir, un Dubois, etc. Donc effectivement, 19e et début 20e, c'est les Noirs des États-Unis qui apportent à la compréhension de la domination et de l'émancipation. Au moment où les mouvements d'indépendance se déclenchent et où toute cette pensée se développe, le mouvement va dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est les espoirs africains qui permettent aux Noirs états-uniens de reprendre l'espoir. Et d'ailleurs, qui changent le rapport de force. On a un très bon texte qui est rarement perçu, que je cite à l'intérieur, dans lequel on a deux présidents des États-Unis qui soulignent que quand même, les indépendances vont être là. C'est la décolonisation. Si on veut que les intérêts économiques des États-Unis soient présents en Afrique, il va peut-être falloir attaquer la ségrégation, l'arrêter. Que économiquement, ça ne va pas tenir si d'un côté, il y a ségrégation des Noirs, et donc c'est pour des intérêts économiques, le rapport de force a été dans ce sens-là également. Je n'ai pas mis Ben Barka uniquement parce que c'était l'Afrique continentale. Hein. C'est tout simplement parce que dans la chronologie, ça a été la douleur du choix. Normalement, il aurait dû y avoir Nasser et il n'y est pas parce que cet ouvrage en appelle d'autres en réalité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de conclusion. C'est un ouvrage qui espère susciter pour des Akiwudze, pour des Nasser, pour plein d'autres encore qui manquent là-dedans, qu'on puisse le compléter. Par exemple, un Nasser, pour faire le lien avec la question antérieure. Lorsque on est venu lui demander, du côté du Moyen-Orient, un certain nombre d'amis qu'il avait dans le Moyen-Orient, lui disant, mais t'occupes pas de l'Afrique, pourquoi tu passes ton temps avec l'Afrique, toi t'es un arabe. Et Nasser leur répond en disant, mais, et ça c'était l'ambiance de l'époque, c'était quand je dis l'ambiance, c'était l'état de la dynamique. Hein, les idées des hommes changent en fonction des contextes, des dynamiques. Nasser leur répond, mais moi je suis et arabe et africain. Et si vous me demandez de choisir entre les deux, mais c'est évident que je choisis l'Afrique. Parce que économiquement, c'est l'Afrique qui est mon pôle qui est mon territoire naturel avec mes voisins, etc. Il y aurait combien aujourd'hui de personnes dans le monde arabe, dans les pays d'Afrique du Nord par exemple, qui ont ce raisonnement. Mais je veux juste souligner que tu as raison de montrer les obstacles d'aujourd'hui, mais qui sont en fonction du contexte. Si les peuples réentrent en lutte, ces idées régressent. Sinon, effectivement, aujourd'hui, elles dominent. Je dirais juste un dernier mot sur Abdelkrim al-Khattabi, qui est effectivement une figure essentielle. Sauf que là, c'était des figures de la décolonisation. Mais effectivement, Abdelkrim al-Khattabi mérite un travail en lui-même. Un travail en lui-même parce que c'est effectivement un des pionniers dans un contexte. Il faut avoir en tête qu'il a quand même combattu contre les deux principales puissances coloniales, la France et l'Espagne. L'Espagne de Franco, avant Franco et puis après. Et puis dernière chose sur le Libéria. Pour moi, le Libéria n'est pas... J'ai une lecture un peu différente. Tout simplement parce que le Libéria, l'idéologie qui a justifié le Libéria, c'était, dans l'ouvrage, je cite quelques éléments des pionniers du Libéria, c'était d'aller évangéliser les Africains. C'est-à-dire, c'était l'idée que les Noirs civilisés allaient apprendre aux sauvages comment s'y prendre. Hein, faut avoir en tête que le Libéria, c'est un cas particulier qui a joué pas forcément un rôle de conscientisation en Afrique, mais qui a pu jouer une fonction de reproduction des dominations. En gros, il disait, ben voilà, l'Africain, vous méritez votre domination, c'est parce que, et nous, on va venir apporter ce que le blanc nous a appris. Donc, faut juste limiter, relativiser l'apport du Libéria. Oui.
Bonjour, monsieur Bonhomme. Moi, je voudrais faire une remarque par rapport à mon travail que je fais sur l'étude des inégalités. J'en suis arrivé à la conclusion que les inégalités, donc là où elles sont le plus frappantes, c'est vis-à-vis de la colonisation, le rapport Occident et le reste du monde. Et en fait, je ne suis pas seul à m'en être rendu compte, ces inégalités sont dues à deux facteurs essentiels. Structurellement, c'est l'élection au niveau politique, le suffrage universel. Et la deuxième raison, les deux sont imbriqués, hein, c'est la création de l'argent par la dette, hein, par le crédit bancaire. Ce sont les deux éléments on va dire, bon, il y en a, c'est un mot connu, ce sont les causes des causes, hein, j'aime bien le dire, parce que c'est, les termes sont consacrés. Les causes des causes, c'est-à-dire que l'élection, on sait très bien que permet de voter, d'élire hein, nos maîtres, qui sont eux-mêmes cooptés. Donc finalement, ça permet de toujours garder une oligarchie au pouvoir. Et par contre, le problème socio-économique, hein, l'inégalité structurelle créée par l'économie, celle-là, elle est très peu connue. Hein, l'économie, à partir du moment où l'argent est créé par la dette, c'est cela qui expliquait la colonisation des richesses des pays d'Afrique et de partout ailleurs. L'argent, la monnaie, est créée de façon asymétrique par l'élite, hein, celle d'ailleurs qui nous fait croire à l'élection comme une démocratie. Elle est créée par ceux-là même qui... ne la divulgue que si l'on fait un emprunt bancaire. À peu près tous les grands humanistes révolutionnaires qui sont fait assassiner avaient abordé cette notion non seulement démocratique, hein, d'enfumage démocratique, moi je dis, mais surtout de cette inégalité, cette pyramide de Ponzi économique. Et dès que ces gens-là, qui avaient un peu d'aura, se sont fait, Thomas Sankara est l'exemple typique, hein, qui a parlé de ce problème d'argent-dette, ils se sont fait zigouiller. Voilà.
Oui, moi je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que je suis d'accord avec vos deux arguments. Simplement, ce qui est extrêmement intéressant dans cette période-là, c'est d'aller regarder les formes de vie sociale et les rapports sociaux qui s'inventaient dans les régions libérées quand il y a eu guérilla. C'est extrêmement intéressant de regarder comment les maquis de la Guinée étaient organisés. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pays, en Guinée, on a eu les trois quarts du territoire qui étaient libérés. D'ailleurs, Cabral disait, si on veut comprendre la Guinée, il faut se dire, c'est comme si nous étions un pays dans lequel il y a eu un envahisseur qui tient nos villes, et nous tenons toutes les campagnes. Et donc, dans les campagnes, était la question de la démocratie était posée. Quelle démocratie? Est-ce que c'est uniquement les élections? Et donc, la question de l'auto-organisation au niveau local, de la prise de décision au niveau local, à quel échelon se prennent les décisions, etc. Eh bien, dans ces territoires, il y a des choses extrêmement intéressantes qui mériteraient d'être regardées non seulement comme forme de lutte d'un moment, mais y compris comme modèle politique pour l'avenir, comme mode de démocratie. Et que la démocratie ne se limite pas à la question des élections, mais c'est d'abord qui a le pouvoir et comment se prennent les décisions. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les élections pour moi. Hein. Le problème, c'est la réduction de la démocratie à la question des élections, alors que c'est d'abord une question de citoyenneté active, c'est-à-dire où se prennent les décisions, qui a le pouvoir, etc. Sur la question de la dette, vous avez que raison. Moi, je souris un petit peu, même si je ne le souhaitais pas, puisque j'habite en France, et même si je n'y habitais pas, je ne souhaite jamais la souffrance à un peuple. Mais c'est assez extraordinaire de voir comment on commence à avoir un discours critique ici sur la dette, depuis que les mécanismes d'ajustement structurel qui ont détruit l'Afrique commencent à s'appliquer à la Grèce, à la France, etc. Et je suis obligé de me dire, comme Césaire, hein, quand Césaire disait, il a fallu que le nazisme vienne coloniser pour que vous réveillez un petit peu. Et là, sur la dette, on est obligé de dire la même chose. Il a fallu que la Grèce soit touchée et qu'on fasse les plans d'ajustement structurel pour que vous questionniez ça, alors que ça a détruit, ça a affamé. C'est des millions d'Africains qui sont morts parce que les plans d'ajustement structurel des années 70, ça a obligé l'État à ne plus soutenir les prix des produits de première nécessité, ça a obligé à la destruction de la fonction publique, ça a paupérisé tous les pays africains, et c'est exactement les mêmes mécanismes liés à la dette, au remboursement de la dette. Et ici, maintenant, on a une prise de conscience qui naît, et on se dit, mais il était temps quand même, il faut que ça vous touche pour que vous le voyez. Quand est-ce qu'on va avoir, hein, une époque où on nous parle de mondialisation? Moi, je ne parle pas de mondialisation, moi, je préfère encore le terme internationalisme. Quand est-ce qu'on sera un peu conséquent avec une conscience internationaliste?
Juste, ouais, un mot pour... moi, ce que je trouvais intéressant aussi dans... Alors, c'est peut-être un peu incident, quoi, c'est peut-être une question secondaire, mais je crois que, y compris par rapport à une situation ici et maintenant, par rapport à nos mouvements, on travaille sur des questions d'histoire, de mémoire, de l'immigration, de lutte des quartiers, c'est de se construire une mythologie aussi.
Absolument.
Moi, je dis c'est peut-être un peu secondaire, mais je pense que c'est important et je trouve que, voilà, l'intérêt de ta démarche et de celles qui pourront suivre, puisqu'effectivement, il y en a plein qui n'y sont pas, c'est effectivement de se, de se donner des héros. Et on a besoin, quand on est issu de l'immigration postcoloniale, issu de la colonisation, malgré tout, avec toutes les limites, évidemment, de ces fonctions-là. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que on voit bien, par exemple, bon, tu l'as cité, mais on voit bien, par exemple, quelle fonction a pu avoir la figure d'un Che Guevara pour dans le monde entier, hein, d'ailleurs au-delà de au-delà des latino-américains. Donc c'est cette question-là. L'autre chose aussi que je trouve intéressant, c'est que justement par rapport à la question de l'histoire de l'immigration à proprement parler, ben, c'est le manque de figures de héroïques de l'immigration et des luttes de l'immigration. Parfois on a même du mal même à trouver des événements ou des dates. Et quand on fait de l'histoire, on a besoin d'événements et de dates. Donc il y a cette idée-là. Autre chose, et je terminerai là-dessus, c'est que c'est peut-être par ce biais de démarche-là aussi qu'on va, et je n'en nie pas la réalité, hein, attention qu'il n'y ait pas de méprise dans ce que je viens de dire, dans ce que je vais dire, c'est aussi de pouvoir aller un peu au-delà des questions de négrophobie, d'islamophobie, pour trouver une matière à unité, à combat commun au fait que des Africains ou des descendants d'Africains, des Maghrébins ou des descendants de Maghrébins fassent cause commune. Je dis bien que je nie pas la réalité des gens qui mènent les combats contre l'islamophobie, contre la négrophobie, mais tu vois, moi, c'est aussi ces aimants-là qui me touchent beaucoup, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça et on cherche. Voilà.
Juste pour dire que ben, si tu peux répondre à ça là et puis conclure en même temps, puisque bon, il commence à être 2 heures.
Non, mais la conclusion est tout trouvée. Hein. C'est l'aspect essentiel. Merci d'être intervenu là-dessus, Salah. L'aspect, parce que c'est souvent sous-estimé, l'aspect essentiel de la mémoire, que ce soit sur des hommes ou des événements, parce que la négation de ces événements, de ces repères, de cette dimension de repères historiques, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, justement, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, qu'il y aurait eu des hommes qui ont accepté leur situation de soumission sans se battre. C'est valable pour l'histoire de l'immigration également. Et c'est important de rappeler les moments dans lesquels il y a eu résistance, quelle qu'elle soit, il y a eu tentative, quelle qu'elle soit, et quand bien même il y a eu échec. Mais en tout cas, que l'être humain s'est tenu debout. Il n'était pas simplement quelqu'un qui était à une place de malheureux et qu'il faudrait plaindre. Parce qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de dignité dans la plainte. C'est uniquement dans la revendication. Alors, juste donner quelques exemples, par exemple, je vais en donner 2 pour montrer. C'est de manière pas héroïsante, hein, mais qui sont essentielles en termes de mémoire. La première, c'est qui sait que toutes les organisations nationalistes ont fait le coup de poing dans les manifs antifascistes des années 30. Et elles étaient signataires du Front Populaire. Qu'il le sait à un moment où la gauche est en train d'éliminer de son peuple une partie en disant « Ouais, mais les Maghrébins, le foulard, etc. » Leur rappeler dans cet imaginaire-là, cette dimension-là. Eh bien, ça fait partie des voilà, en bas du Front Populaire, il y avait le PCF, il y avait la SFIO, il y avait le MTLD, il y avait les organisations nationalistes. Ils étaient signataires. Le rappeler vient rappeler quand même, et ne la jouez pas sur oui, mais quand même la laïcité, etc. Seconde dimension, vous avez tous vécu, j'en arrête là, mais on pourrait. Il y en a des dizaines, hein, malheureusement. Hein. C'est d'ailleurs un des projets de livre que j'ai qui est de rappeler tous ces éléments repères. Là, c'était les hommes, mais peut-être des éléments repères. Juste donner un second exemple. Mai 68. Vous avez tous vu, là, en 2008, anniversaire de mai 68. Vous avez vu les films qui sont sortis, etc. On a eu quelques reportages. La plupart des reportages, on a réussi à faire des reportages sur mai 68 ouvriers, je ne parle pas du mouvement étudiant, je parle du mouvement ouvrier, dans lequel il n'y avait pas de noirs et pas d'arabes. Mais mai 68, c'est quoi? C'est Renault. C'était les OS. C'était qui les OS en mai 68 à Renault? C'était l'exception quand il y avait un blanc qui était là-dedans. Là, il était content quand elle arrivait à trouver une place, puisque c'était la politique de la direction de chez Renault que de prendre des noirs et des arabes au poste d'OS. C'est eux qui ont fait grève. Et on arrive à faire, hein, là, dans l'histoire du mouvement ouvrier, donc de ce qui peut transformer la gauche dans ce pays, eh bien, on a lavé, on a éliminé. Ben, ça, et de manière inconsciente, ces éléments de repère, cette amnésie sur les moments dans lesquels il y a eu des luttes, dans lesquelles cette partie de la classe ouvrière qu'est l'immigration a contribué à même initier des formes de lutte nouvelles, ça disparaît de la mémoire collective. Dernier exemple, la marche pour l'égalité et contre le racisme. À la fête de l'UMA, il n'y avait pas un stand. Quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet événement, qui a été fondateur pour toute une génération dans l'immigration, cet événement fait pas partie de l'imaginaire politique de gauche. C'est ça que ça veut dire, ni d'extrême gauche. Ça fait pas partie de cet imaginaire politique-là. Donc, le travail sur la mémoire, pour moi, c'est l'équivalent, ça part du même processus que ce que dit Césaire, hein, sur la dimension de réappropriation de soi. J'arrête.
Non mais voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à Saïd pour son intervention. Bien sûr. Merci à vous d'avoir été présent.